Ah, Hélène Dauphinet, bonjour.
Bonjour, Martin.
Ouais, tu veux revenir sur le fameux parc Willy Bourassa au
Oui, bien écoute, je trouve que la contestation citoyenne a été quand même bonne en fin de semaine, là, avec une centaine de personnes qui sont allées sur le terrain pique-niquer pour montrer qu'ils veulent que la ville conserve ce parc-là.
Mais majoritairement, personne ne connaissait ce parc-là, de ceux qui se sont présentés. C'est toujours étonnant, d'ailleurs.
Peut-être, Martin, qu'il y avait eu des lacunes à cet égard-là, mais maintenant qu'il est connu, ce parc-là, c'est
Tu penses vraiment, là?
Oui, moi, je pense que oui. C'est pas tout le monde qui veut aller dans des parcs où il y a des jeux d'enfants puis beaucoup de va-et-vient.
Oui.
L'accès à la rivière, maintenant que les gens savent ça, je pense que c'est un point fort de ce parc-là.
Mais l'accès à la rivière, faut tout refaire, des infrastructures qui amènent du terrain jusqu'à la rivière en passant.
Mais quand tu es plus de nature contemplative, ben déjà de voir la rivière, d'en être prêt... Puis, en fin de semaine, sur les photos parues dans les médias, il y a plusieurs gens qui étaient sur le bord de la rive.
Mm-hmm.
Donc, qui avaient descendu là avec une petite corde. Et ça veut pas dire que la ville pourrait pas refaire ses escaliers comme elle a déjà fait, sans faire de rampe de mise à l'eau, par exemple. Bon, ben écoute, Martin, là-dessus, je pense qu'on n'a pas la
non,
même
ça,
opinion.
Non, on s'entend pas du tout, parce qu'il faut aussi considérer que si... On garde ce parc-là, va falloir l'entretenir. Puis moi, j'aimerais savoir aussi les coûts de tout ça. Puis vraiment, là, de l'intérêt des citoyens, mis à part ceux et celles qui sont venus d'un peu partout sur le territoire, puis dont la majorité ne connaissait pas même l'existence de ce parc. Moi, c'est...
Pour la suite du dossier, là, ce qui va être le plus déterminant, ça va être du côté légal, là, parce que quand même, la ville a signé une offre. Elle a eu une offre d'achat, puis elle l'a entérinée sous réserve de faire changer le zonage. Donc, ça, le zonage, il y a peu de gens qui vont être touchés par ça parce que c'est les zones concernées, les gens qui vont pouvoir se prononcer.
Les résidents proches.
Mais ce qu'avait suggéré Mme Beaudin la semaine dernière de ne pas voter le deuxième règlement sur la changement de... Ben, l'offre d'achat, là, puis le changement de zonage de ce parc-là, je ne sais pas si ça peut s'arrêter à ce moment-là, là, parce que le gars, là, M. Bisaillon, à qui tu as parlé tout à l'heure, qui a fait une offre d'achat en bonne et due forme, si la ville arrête les procédures,
ça va coûter
autre
des
que
sous.
Le zonage, ben, effectivement.
Ça aussi, c'est
donc,
une facture qu'on va additionner.
Ça, c'est un point. Mais moi, Martin, comme je te dis, ce qui me reste en tête toujours, c'est comment on peut décider de vendre un parc puis que ça se fasse autant en catimini, que ça prenne autant de temps avant que ça sorte, à part là, deux, trois résidents du coin qui ont vu une petite pancarte trois mois.
C'était affiché sur le site de la ville de Sherbrooke.
Oui, mais le site de la ville de Sherbrooke, Martin, tu sais comment c'est.
Ben, c'est public.
Oui, ça c'est public, c'est sûr.
OK. C'est notre question aujourd'hui concernant ce que souhaite faire, entre autres... La députée solidaire, Christine Labrie, c'est-à-dire de mettre sur pied un peu comme on l'avait fait dans les années 60 avec la commission Parents et que là, on a développé le réseau scolaire au Québec. Hein. Là, c'est de faire, si on veut, une modernisation du réseau scolaire.
C'est ça. C'est certain que quand on fait référence à la commission Parents, on s'attaque pas à une petite révision qui a été faite. Là, hein. C'était... une commission royale d'enquête, puis c'est là, comme tu dis, qu'on a décidé de mettre sur pied les polyvalentes, les cégeps, de rendre l'accès aux universités plus facile pour les gens de toutes les couches de la société.
La laïcisation aussi de l'école.
La scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans, création du ministère de l'Éducation. Donc, c'est ce qui a fondé notre système d'éducation à l'heure actuelle, qui partaient un peu des écoles de rang puis des écoles classiques.
Ouais.
Puis beaucoup de gens qui finissaient jamais l'école parce qu'ils pouvaient pas même pas finir leur primaire jusqu'à 16 ans. Bon, donc, si on veut, si on suggère de faire une remise en question aussi importante que ça, ben va falloir s'attaquer à des sujets, des enjeux de notre temps là, là-dedans, de savoir, par exemple, comme... Au fil des années, là, le corpus des connaissances s'est beaucoup développé, beaucoup accru.
Mmh.
Avant, il y a des gens qui étaient capables de lire tous les livres qui étaient publiés sur un sujet. Maintenant, là, c'est plus possible. C'est pour ça, souvent même, ils ont développé des outils analytiques comme les méta-analyses qui nous permettent au lieu de lire tout ça, ben il y a quelqu'un qui va faire une compilation.
Ouais.
Ça va dire, c'est ça le résultat, ça s'en va par là, les résultats de recherche. Donc, ça, faudrait savoir comment on s'attaque là, à la multiplication des savoirs. Là. Les bacs, à l'heure actuelle, ils se font à peu près en autant d'années qu'avant. Mais quand j'ai terminé, par exemple, moi, ma formation en économie, là, la théorie des jeux, ça commençait à peine. Maintenant, là, on est rendu beaucoup plus loin que ça. Donc, comment on s'attaque à ça? Comment on s'attaque aussi à la robotisation, à l'intelligence artificielle? Comment on va adapter notre système scolaire pour gérer ça? Puis,
et même à la base, c'est-à-dire au primaire?
Oui, au primaire aussi. Comment on insère les outils technologiques aussi dans l'éducation? Donc, on voit qu'il y a des écoles qui servent des tablettes. Est-ce que c'est le bon chemin ou non? Il y a aussi, moi, j'observe, je suis dans l'enseignement au niveau collégial, on veut beaucoup mettre le jeune en action très tôt, lui faire des choses. À un moment donné, il va falloir se poser la question de dire, avant de faire des choses, il faut que tu aies un minimum de connaissances. Tu sais, je veux bien te faire
ouais.
Une analyse d'un enjeu de société.
Ne serait-ce qu'un test.
Un
examen, mais attends, avant de faire le test, il faut que tu aies des apprentissages.
Effectivement, puis donc, y a, ça pour moi, ça serait des questions de fond sur ce qui se passe dans la classe. Et l'autre chose, peut-être du point de vue des professeurs pour attirer les jeunes en enseignement,
mm-hmm.
parce qu'on sait qu'il en manque, fait que dans ce temps-là, on est porté à baisser un petit peu nos attentes envers eux ou les prérequis universitaires. Mais, tu sais, le fameux encan des profs là, qu'il y a chaque année, là, avant la rentrée scolaire, ou
ouais,
ceux qui n'ont pas
heures,
leur permanence, puis, là, puis il y en a une grande quantité de jeunes enseignants. Bon, ben là, eux autres, ils sont comme mis, on met les jobs à l'encan, puis là, le plus vieux, il peut se prononcer, puis là, l'autre, puis là. Puis ce qui fait qu'en bout de ligne, souvent, c'est le plus jeune qui a la tâche la plus complexe, la plus difficile, alors
ouais.
que c'est lui qui a le moins d'expérience.
Mm-hmm.
C'est pas, après ça, on s'étonne que les jeunes lâchent. Encore là, c'est difficile d'avoir un mentor sur place pour te guider un peu. À chaque école, à chaque année, tu vas changer d'école. Puis souvent, tu vas partager ton temps entre deux écoles. Donc, il y a ça qu'il faudrait, ouais. je pense, beaucoup travailler. Tout ce qui tourne autour de... des professeurs, comment on les traite, comment on les met en poste, comment on leur donne leur permanence. Et après ça, au niveau des savoirs, là, vraiment s'attaquer ouais. à...
Mais moi, je retiens une chose, tu ne m'as pas parlé des parents. Et c'est un des points de vue que j'ai donné tout à l'heure, à savoir que si on veut moderniser l'école et ses façons de faire, il faut aussi les parents, l'implication des parents, mais aussi de remettre... cette valorisation de l'école dans nos préoccupations. Parce que ça, malheureusement, ça s'est effrité énormément au fil des ans.
Du côté des parents, je te dirais, dans la plupart des milieux où le revenu est assez bon, où les parents sont eux-mêmes scolarisés, tu n'auras probablement pas de problématique importante avec les parents.
Je te contredis.
Ben,
je te contredis parce que je connais des enseignants, des enseignantes qui ont du trouble, sais-tu? Pas nécessairement avec les enfants issus de milieux défavorisés. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors, là-dessus...
Mais mon commentaire n'était pas à ce niveau-là. Moi, je voulais dire dans le sens où l'enfant qui va à l'école puis est dans un milieu où les parents sont sensibilisés à tous les avantages qu'apporte une bonne éducation...
Ouais.
où les parents ont les moyens de bien encadrer les jeunes. Il y a un peu de misère en mathématiques, mm-hmm. on va y embaucher un tuteur, etc. Je veux dire que dans la classe, c'est probablement pas ces enfants-là qui vont avoir de la difficulté à réussir. Là, les jeunes qui n'ont pas d'appui...
Malheureusement, je suis pas d'accord.
Je vais juste terminer, Martin.
Oh,
les
oui.
jeunes qui n'ont pas d'appui à la maison, pour eux, c'est difficile. Dès qu'ils ont... ils bûchent sur un petit problème de mathématiques, une règle de français. Ils n'ont personne pour se le faire expliquer. Eux autres, c'est certain que leur chance de se rendre jusqu'à la fin du parcours scolaire, ben, elle est peut-être moins élevée. Puis je pense que le support des parents à la maison, c'est prouvé que comme facteur de réussite, c'est bien. Bon, là maintenant, est-ce
mais
que...
Encore faut-il le faire?
Oui, ça c'est la question, c'est certain. Mais je voyais, c'est que ce matin, là, il a sorti une étude qui disait que les jeunes qui faisaient du sport, ça leur donnait une meilleure santé psychologique, puis ils réussissaient
ouais,
mieux, quelque
en
chose
équipe.
Comme ça. T'as vu, hein?
Oui.
Ben Martin, encore
Sport
là,
en
je
équipe.
disais, l'étude, là, je ne sais pas si elle a isolé ce facteur-là, mais souvent, quels sont les jeunes qui vont faire du sport d'équipe? Les jeunes qui ont des parents qui sont derrière à la maison, qui s'en occupent, qui savent que c'est important, qui ont les moyens de payer les inscriptions. Tu te rappelles, la semaine dernière, je soulignais le bon coup là, de la table de quartier des Jardins, en tout cas, qui a mis sur pied une ligue de soccer gratuite pour les jeunes défavorisés. Bon, ça, eux, ça va remplacer peut-être le manque de moyens des parents et aussi peut-être... une présence un peu moins grande des parents, je ne sais pas. Ce n'est pas le cas de tous les enfants défavorisés, mais...
Mais en tout cas, tu vois, ça ouvre un beau débat concernant justement cette refonte du réseau scolaire. Mais moi, je pense que c'est un enjeu au-delà du réseau de scolaire. C'est un enjeu de société.
Oui.
D'abord et avant tout, pas juste de remettre en question l'école, mais de tous se remettre en question par rapport à l'éducation.
Oui, puis j'ai fait venir un conférencier de l'Institut du Québec qui a fait un rapport sur le vieillissement. Je l'ai fait venir au Cégep, Jean-Guy Côté.
Oui.
Puis une de ses conclusions, il disait le vieillissement de la population avec la rareté de main-d'œuvre, tout ça amène de nombreux défis. Puis une des principales solutions, ça passe par la formation.
Oui.
Et aussi s'assurer que nos jeunes ne décrochent pas en cours de route.
Oui, ça aussi, on a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, Hélène.
Merci, Martin.
Merci.
Bonne journée.
Hélène Dauphinet.